Auditeurs de la radio ILA, nous nous excusons pour ce désagrément qu'on a eu à l'entame de cette émission. Vous savez, les inconvénients du live, c'est toujours des petits soucis que nous avons à la dernière minute par rapport aux techniques. Mais vu que nous sommes tenaces, nous sommes revenus avec des armes qui nous permettent de continuer cette émission. Comme je vous ai dit à l'entame de cette émission, nous sommes aujourd'hui le 1er octobre. Le 1er octobre, c'est le début du mois qui fait la sensibilisation par rapport au cancer du sein. Il y a de cela 27 ans que la France a mis en place une politique qui permet de sensibiliser, de mobiliser des ressources afin de lutter contre cette maladie qui est le cancer. 9 femmes sur 10 peuvent guérir du cancer quand cette maladie est prise en charge très tôt. Mais pour ça, pour parler de cette prise en charge, pour parler du dépistage, il n'y a pas mieux que la responsable du Centre régional de dépistage de l'Alsace, qui n'est autre que docteur Catherine. Bonjour, docteur.
Bonjour.
Désolé, tout à l'heure, on avait commencé notre émission avec un bon élan, avec un bon sourire, mais le technique nous a fait défaut.
Ah, mais le sourire est toujours là.
Le sourire est toujours là. Alors, docteur Catherine, pour nos auditeurs, qui est docteur Catherine et quelle est sa fonction dans ce centre régional?
Alors, je suis médecin. Formée à la santé publique, c'est-à-dire à tout ce qui peut éviter des maladies au sens large. Dans la santé publique, vous avez la médecine du travail, la médecine scolaire et les campagnes de dépistage qui, comme vous l'avez dit, existent maintenant depuis une vingtaine d'années en France. Donc, au sein de ce qui s'appelle maintenant le Centre régional de dépistage et qui était auparavant, et ça parlera peut-être plus aux femmes de plus de 50 ans, nous nous appelions avant ADEMAS, l'association ADEMAS. Et nous nous sommes tout simplement regroupés Grand Est et changé de nom. Mais nos missions restent les mêmes. C'est d'inviter toutes les femmes et les hommes à participer au programme national développé par le ministère de la Santé pour le cancer du côlon. Les hommes et les femmes à partir de 50 ans, le cancer du sein, les femmes à partir de 50 ans, et le cancer du col de l'utérus, les femmes à partir de 25 ans.
Docteur, j'aimerais juste vous couper la parole 2 minutes. Vous avez parlé des autres formes de cancer que les femmes et les hommes peuvent développer. Mais j'ai vu quelque part que le cancer du sein, les hommes aussi peuvent le développer.
Ah, tout à fait. Ce n'est pas un cancer exclusivement féminin, parce que les hommes, au cours de leur développement de tout petit, ont quelques cellules de glandes mammaires qui ne se sont pas développées parce qu'ils n'ont pas d'hormones féminines. Ils ont des hormones masculines et donc le sein ne se développe pas. Mais l'embryon, dans le ventre de sa mère, il peut avoir un sein si après il a les hormones pour se développer.
Donc, du coup, les hommes aussi sont concernés par rapport au cancer du sein.
Oui, mais il reste très très rare chez un homme parce qu'il y a très peu de cellules de sein. Donc très peu de ces cellules qui deviennent malades.
Alors, docteur Catherine, vous avez commencé de nous parler de vos priorités. Alors, je voudrais juste savoir aujourd'hui, alors, comment définir le cancer du sein et quels sont les principaux facteurs de risque?
Alors le principal facteur de risque, bon, déjà c'est d'être une femme, hein, on vient d'en parler. Il touche beaucoup plus les femmes que les hommes. Et l'autre facteur de risque, malheureusement, comme beaucoup de cancers, bah, c'est de vieillir, c'est l'âge. C'est une maladie qui touche les femmes après 50 ans, le plus souvent. Vous allez me dire, moi je connais quelqu'un qui a eu un cancer du sein à 40 ans ou à 35 ans. Oui, malheureusement, ça existe. Mais la plupart du temps, c'est après la ménopause. La moyenne d'âge, du cancer en France, du sein, c'est 63 ans.
La moyenne d'âge du cancer du sein en France, c'est 63 ans. Effectivement, j'allais revenir là-dessus parce que Moi, je connais une personne qui a eu le cancer du sein à 37 ans et malheureusement qui nous a quittés, qui est cette personne qui porte le nom de cette ONG et de cette radio, à qui nous envoyons des ondes positives et que son âme repose en paix. Elle est partie à 37 ans.
Oui, malheureusement, en médecine, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Et en matière de cancer, non plus. Mais c'est vrai qu'on parle de fréquence. On dit une femme sur huit a un risque d'avoir un cancer du sein au cours de son existence. Mais ça, c'est enfin, pour toute la population féminine de France. À l'échelle d'un individu, en fonction de votre terrain, de vos gènes, vous pouvez être sujet au cancer du sein beaucoup plus jeune. Et c'est vrai que, mais il y a 5% des cancers du sein qui seraient liés à des anomalies génétiques et qui surviendraient du coup très jeune. Mais ça veut dire que 95% des cancers du sein, eh bien, sont liés la plupart du temps à l'âge.
La plupart du temps à l'âge, auditeur de la radio, il a, vous venez d'entendre, docteur Catherine, qui nous a parlé les facteurs de risque et qu'aujourd'hui, nous sommes à partir de 60 ans, c'est des personnes qui sont plus âgées, mais les jeunes ne sont pas aussi épargnés par cette maladie. Donc, il faut se prendre en charge. Donc, pour se prendre en charge, qu'est-ce qu'il faut, docteur Catherine?
Ben déjà, pour tous les cancers, le mode de vie, c'est très important. Et ça concerne tous les âges. Ça commence chez les enfants et pour tous les cancers. Un mode de vie sain, c'est-à-dire pas de tabac, peu d'alcool, manger équilibré, bouger, pas nécessairement faire le marathon ou grimper l'Himalaya, mais marcher tous les jours. Éviter de prendre le tram pour un oui, pour un non, la voiture pour chercher le pain, marcher à pied, prendre l'escalier, faire une activité extérieure et pas rester sur son canapé devant les jeux vidéo à longueur de temps. Et ça aide à se sentir mieux et sur le long terme, ça aide votre corps à se protéger des différents cancers.
D'où de lier les activités de tous les jours avec le sport.
Exactement, ça c'est primordial. Et c'est vraiment la prévention pour essayer de ne pas avoir de cancer. Après, pour le cancer du sein, malheureusement, on va vieillir quand même, hein, même si on a un mode de vie très sain.
À fait.
Et après, le stade d'après, c'est de trouver la maladie le plus tôt possible.
Alors, docteur, on dit le plus souvent quand il y a un cancer du sein qui a été dépisté dans une famille, il est conseillé aux femmes de cette famille de tout de suite se prendre en charge, déjà faire des examens approfondis. Et s'il y a des enfants de bas âge, il y a des vaccins qui se font, il y a des traitements. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette partie aussi?
Alors malheureusement pour le cancer du sein, on n'a pas de vaccin.
Voilà.
On a des vaccins pour le cancer du col de l'utérus qui peuvent protéger contre le virus papilloma. Mais pour le cancer du sein, il n'y a pas de vaccin. On peut faire des recherches dans les familles pour chercher l'anomalie génétique, mais pas quand il y a un seul cas. Malheureusement, quand il y a un seul cas, eh ben, c'est le hasard. C'est le cancer du sein touchant une femme sur huit. Dans une famille, il y a enfin, statistiquement un cancer du sein sans que les gènes soient transmissibles, sans qu'on transmette. La notion de transmission pour le cancer du sein, on y pense à partir de trois cancers dans la famille, où là, on peut rechercher les gènes, faire une étude et démarrer la surveillance très tôt.
D'accord.
Pour la plupart des femmes, la surveillance, elle commence sur soi-même, par soi-même, 20 ans, 25 ans, apprendre à se connaître, se palper régulièrement les seins, consulter un médecin quand on a un doute, et entre 40 et 50 ans, démarrer les mammographies régulières, même si tout va bien, même si on ne sent rien, faire des mammographies régulièrement pour trouver le cancer tout petit. Pas pour l'empêcher d'arriver, malheureusement.
Pas pour l'empêcher d'arriver, mais le trouver tout petit,
Exactement.
l'autopalpation, parce que vous avez parlé de tranche d'âge, parce que alors, nous, on sensibilise, bon, depuis qu'on a eu cette maladie, vécu cette maladie, alors moi, je passe mon temps à dire aux femmes, faites l'autopalpation, faites la
Exactement.
biopsie, allez voir un médecin quand vous sentez quelque chose d'anormal au niveau du sein. Mais vous avez parlé tout de suite des tranches d'âge. À quel moment on conseille aux femmes de faire l'autopalpation?
Disons, quand on est une femme, 20 ans, 25 ans, de commencer à apprendre à se connaître, se palper sous la douche quand on veut, avec son ami si on a envie, peu importe, le faire régulièrement et s'alarmer d'un changement. Pas de sentir quelque chose dans son sein, hein, ça c'est normal, il y a de la glande hein, dans le sein, c'est pas quelque chose de vide, mais apprendre à se connaître et se dire tiens, ça c'est bizarre, j'avais pas ça le mois dernier. Est-ce que ça va partir? Est-ce que ça reste? Et si ça reste, allez consulter pour avoir un avis médical sur la chose.
Avant d'arriver à l'avis médical, alors les hommes, les compagnons, les maris, alors on attire votre attention, ce n'est pas que vos compagnes que ça touche, ça vous concerne aussi.
Ah ben
Il
oui.
faudrait vous impliquer dans l'autopalpation de votre femme le matin, après la douche ou pendant la douche, si vous la prenez ensemble, si vous ne la prenez pas ensemble, mais en fait, un quotidien, ça vous rapproche, ça peut vous permettre aussi de raffermir l'amour que vous êtes en train de partager, et ça vous fait une autre expérience de la vie de couple. Quand vous vous impliquez dans la santé de votre compagne ou bien de votre femme, ça veut dire que vous prenez soin d'elle et que vous êtes avenant. Vous êtes là pour elle, elle est là pour vous. Alors, le cancer du sein, aidez nos sœurs, aidez nos femmes, aidez vos compagnes à lutter contre cette maladie. Le docteur l'a si bien dit. Quand c'est pris en charge très tôt, on peut vivre avec. Et je pense que vous allez voir le 15 octobre prochain des témoignages de personnes qui vivent avec cette maladie il y a de cela 10 ans maintenant. Il y a des personnes qui vivent avec cette maladie parce qu'elle a été prise en charge très tôt. Ne pensez pas que cette maladie n'arrive qu'aux autres. Ça arrive à tout le monde. Et comme elle a dit, on vieillit. Et comme elle a dit, il y a des risques dans ce parcours des jeunes qui sont exposés à la partie génétique de cette maladie aussi qui existe. Ne vous oubliez pas et n'oubliez pas vos compagnes pour vivre aussi longtemps en couple. Et si vous avez des enfants, ces enfants vont profiter de leur maman et de leur papa. C'est très important. Docteur, on a parlé du dépistage. On a fait des conseils. Aujourd'hui, quelles recommandations faites-vous à cette population de jeunes issus de différents horizons, que ce soit de l'Afrique subsaharienne, des afro-descendants, les résidents en France, parce qu'on est regardé un peu partout dans le monde. Quels conseils faites-vous à cette population qui vous suit?
Pour les jeunes, c'est le mode de vie. C'est vraiment... ne pas se, comment dire, revenir à un mode de vie équilibré, d'excès en rien sur l'alimentation. Il ne s'agit pas de devenir végétarien, vegan ou ne manger que de la viande ou je ne sais pas quoi. De l'équilibre, une alimentation diversifiée, ne pas fumer. Le tabac, vraiment, ça crée énormément de problèmes de santé. Alors, pas à 25 ans, 30 ans, oui, on peut même courir le marathon avec des fumeurs, pourquoi pas. Mais avec le temps, on abîme son corps et ça, c'est très important. Et c'est des habitudes qu'on prend très jeune. Il ne s'agit pas de jamais boire un soda sucré, mais il ne faut pas que ça devienne la bouteille sur la table à tous les repas. Il faut garder un côté ludique, festif, boire une bière de temps en temps, pas de problème. Mais éviter les consommations excessives de tout. Et ça, il n'y a pas d'âge pour. Après, malheureusement, le cancer, c'est... Il n'y a pas qu'un cancer. Il y a un cancer pour chaque partie de son corps qui ne va pas avoir les mêmes facteurs de risque. Et il y a presque autant de cancers que de personnes. Parce que la réaction, la façon dont on se défend contre le cancer, elle dépend des personnes. Après, les populations africaines implantées en France, je ne sais pas si elles ont plus de risques ou moins de risques que les femmes françaises d'origine française. Je ne crois pas. Je crois que ça touche vraiment toutes les femmes. De tous les pays du monde.
Ça touche toutes les femmes des pays du monde, mais par contre, Moi, je vous le dis d'expérience, étant dans cette communauté, il y a l'aspect culturel, il y a l'aspect, comment je veux vous le dire, sociétal, le fait que c'est un peu tabou de parler du corps dans certaines communautés,
Tout à
et
fait.
qu'aujourd'hui, qui font que c'est, il y a certaines femmes qui préfèrent, par exemple, aller voir gynécologue femme qu'un gynécologue homme, ou que lui parler de l'autopalpation et que le mari l'accompagne
Se mêle de ça. Oui,
de
non,
ça.
mais
C'est des sujets qui sont un peu
très tabou,
tabous
bien
dans
sûr.
certaines communautés. Donc aujourd'hui, d'où notre combat, vous et nous, les associations qui s'impliquent dans ça, de sensibiliser ces communautés afin de dire que parler de son
Il
corps,
faut essayer d'en parler, c'est vrai. Après, il faut respecter la pudeur de chacun. Mais vous pouvez aller voir des médecins. Et on en parlait avec un membre de votre communauté, Julie, une sage-femme. Ce n'est pas que les gynécos qui s'occupent de ça. Vous pouvez aller voir des sages-femmes. C'est des gens qui sont à côté de chez vous, qui sont faciles à consulter. Ce sont souvent des femmes. Vous pouvez en parler à une amie, à une sœur, pas nécessairement à votre mari si vous n'en avez pas envie. Il faut. Je crois que c'est important là. Et il faut surtout que toutes les femmes qui nous écoutent, elles n'aient pas peur, toutes seules dans l'intimité de leur salle de bain, de se regarder à la glace. Et ça, ce n'est pas une question de communauté, hein. Ça existe partout, à tout âge. C'est vraiment l'individu, la pudeur de chacun qui ne se regarde jamais dans la glace, les seins dans la glace. Commençons déjà par. Mais ça peut être fait toute seule dans son coin, hein, pas nécessairement en l'étalant sur la place publique. Mais vous avez raison, il faut en parler. On en parle de plus en plus. Regardez Octobre Rose. Et je crois que de plus en plus de femmes, et c'est pour ça qu'on a l'impression que ça explose ou que ça touche des gens jeunes, parce que les femmes jeunes en parlent peut-être plus facilement à leurs collègues de travail, à leurs voisines de palier, que ma grand-mère. Bon, ma grand-mère, elle a un cancer du sein, j'ai appris ça, elle était morte depuis longtemps. On n'en parlait pas dans les familles, même, voilà, c'est pas qu'une question de culture, hein, c'est partout, je crois. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est peut-être plus facile d'en parler. Pas encore assez, sans doute. Et merci à vous de me donner la parole aujourd'hui.
Merci à vous d'avoir répondu aussi à notre invitation. De passage, vous avez parlé de Julie. Alors, chers auditeurs de la radio Yila, il faut, aimons-nous vivants, comme j'aime le dire. Il faut aussi parler de ce qu'on fait positivement pendant qu'on y est. N'attendons pas quand la personne n'est pas là pour exprimer ce qu'on ressent. Partageons l'amour. Rien que en partageant l'amour envers l'autre, on lutte contre cette maladie
Tout à
aussi.
fait.
Donc aujourd'hui, je profite de ce petit antenne pour dire merci à Julie. C'est grâce à Julie et son cabinet, parce que si vous vous cherchez aussi une sage-femme qui peut vous accompagner dans tout le process, mesdames, vous avez une de vos consoeurs qui sera. Je fais de la publicité pour elle, c'est fait sciemment. Je sais que quelque part d'autre, derrière le petit écran, elle est là. Elle n'aimerait pas que je fasse ça, mais je profite de l'occasion pour dire, elle fait un travail extraordinaire. C'est grâce à elle, grâce à son implication dans la société dans laquelle qu'on vit aujourd'hui, parce qu'il faut parler de l'intégration aussi de ces communautés africaines ici. Voici une preuve d'intégration. Une jeune fille qui est arrivée de son Cameroun natal, qui est venue étudier ici, qui s'est intégrée et qui a créé son entreprise pour accompagner les personnes qui vivent dans sa communauté. Elle ne travaille pas juste pour sa communauté, elle a des patients qui sont alsaciens, elle a des
Bien
patients
sûr.
qui viennent de tous les horizons.
La maladie n'a pas de frontières, hein,
Et voilà,
malheureusement.
malheureusement. Bon, Julie, quelque part, si tu veux, après l'émission, tu peux me faire un petit tape sur la tête parce que je fais ce que tu n'aimes pas, mais il fallait que je le fasse. Merci à toi et bon courage dans ce que tu fais. Alors, docteur, aujourd'hui, nous sommes le 1er octobre, c'est l'occasion pour que nous nous sommes retrouvés pour parler de ce que vous faites dans votre organisation, toucher les communautés pour qu'on les sensibilise. Vous avez dit quelles sont les différentes étapes, comment on fait le dépistage, comment on peut accompagner ces personnes, les tranches d'âge dans lesquelles il faut aller faire un examen approfondi à partir de 45 ans et plus, à partir de 20 ans qu'on est femme, il faut aussi oser
Exactement.
prendre son corps en main.
Oui.
Et les compagnons, les maris qui pensent qu'ils ne sont pas impliqués dans cette histoire, ils doivent être impliqués par leur femme et eux-mêmes, ils peuvent prendre
Pour le
l'initiative
cancer du sein,
pour le
oui, mais
cancer du
les
sein.
hommes, il faut qu'ils se prennent en charge pour le cancer du côlon,
Tout à fait,
hein,
tout à fait.
qui là les concerne aussi comme les femmes.
Mais tout à fait, on peut en parler, hein,
Ah,
parce
si
qu'on
vous
a un
voulez.
peu, on a un peu le temps, il n'y a pas que le cancer du sein. Vous pouvez parler aussi des autres formes de cancer qu'il y a dans votre programme. Vous avez le petit écran et l'antenne avec vous.
Ah ben écoutez, l'autre axe du programme national, c'est le cancer du côlon, c'est-à-dire le gros intestin, qui est un cancer très fréquent, qui touche les hommes et les femmes. C'est le deuxième en termes de fréquence. Deuxième chez la femme après le sein et deuxième chez l'homme après la prostate. Donc c'est un cancer qui, contrairement au sein, met beaucoup de temps à ce qu'on s'en rende compte. Un sein, un cancer qui finit par grossir, on finit par le sentir. Le sein, c'est un organe extérieur. Le gros intestin, c'est à l'intérieur du ventre, hein. Pour que ça commence à donner des signes, il faut avoir un cancer qui est une grosse mandarine ou une petite orange, hein. Donc on est déjà sur plusieurs centimètres de cancer. Et donc il y a un test de dépistage qui est proposé par les médecins de famille ou maintenant même sur commande par Internet chez les hommes et les femmes à partir de 50 ans. Et c'est un test qui permet de voir s'il y a des saignements microscopiques dans les selles. C'est une petite analyse de selles. Ça se fait, c'est un petit tube avec un petit bâtonnet hein, qu'on trempe dans la selle et qu'on envoie au laboratoire. Ça se fait à la maison quand on a envie. Et c'est très efficace pour aller détecter des polypes. C'est ces espèces de petits champignons qu'on a dans le gros intestin et qui, eux, peuvent dégénérer et devenir un cancer. Et tout l'intérêt, c'est de les enlever tant qu'ils sont des tout petits champignons et qu'ils ne sont pas encore devenus des cancers.
D'accord. Alors, auditeurs de la radio ILA, vous venez d'entendre Dr. Catherine qui coordonne ce centre régional. Alors, je profite de cette antenne qu'on a et pour faire un appel. Parce que, docteur, comme on est suivi aujourd'hui en France, il y a toute une politique, la politique nationale de prise en charge de ces maladies. Et nous sommes originaires du continent africain où il y a les autorités qui tardent à mettre en place des politiques. Bon, c'est pour cela que je me tourne vers les autorités de nos différents pays, que ce soit la Guinée, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, tout ce continent africain. À ma connaissance, je connais un pays ou deux aujourd'hui qui ont mis en place une politique nationale pour la prise en charge du cancer du sein. C'est le Maroc et le Sénégal. Ils ont vraiment une politique dans les petites recherches. Si j'ai fait omission à des pays qui ont fait une prise en charge par rapport à cette maladie, je m'en excuse, mais je fais parler mon cœur. Je fais parler mon cœur parce que cette maladie tue énormément dans la plus grande discrétion dans nos différents pays. Je me rappelle quand j'étais tout petit, j'ai eu une tante qui est décédée, mais elle avait une plaie au niveau du sein avant de mourir. C'est aujourd'hui, parce que j'ai vécu la maladie étant grand, que j'ai compris que c'était un cancer du sein. Alors, s'il vous plaît, les autorités, je sais qu'il y a parmi vous qui nous regardent, qui regardent ce direct sur Facebook. Il y en a qui nous écoutent sur la plateforme de la radio. Vous avez la possibilité de sauver des vies. En sauvant ces vies, c'est des gestes qui sont simples. Si ces politiques existent, vulgarisez ces politiques. S'ils n'existent pas, inspirez-vous de l'existant pour pouvoir mettre en place une politique nationale de prise en charge par rapport à cette maladie. Moi, personnellement, avec l'ONG et mes amis qui nous accompagnent, Africel, ONG ILA et tous les partenaires de ce projet, femmes d'ici et femmes d'ailleurs, Horizon, on est impliqués sur le plan associatif et on essaie d'influencer des associations partenaires dans nos différents pays. Mais ces associations ne peuvent pas faire quelque chose si vous-même, les autorités, vous ne mettez pas en place les infrastructures de base pour permettre aux associations de pouvoir intervenir, pour pouvoir gérer les prises en charge. Alors, je reçois un petit mot qui vient de les remerciements. Attends, attends. Ah, Golden Flow, s'il te plaît. Alors, merci beaucoup pour l'appel. Je suis. Alors, je dis, nous allons revenir sur docteur. Nous sommes pratiquement à la fin de notre temps d'émission. Laissez-moi vous exprimer ma gratitude.
C'est moi qui vous remercie.
Franchement, je vous parle avec beaucoup d'émotion, beaucoup de respect, parce que le travail que vous faites déjà dans votre pays nous inspire beaucoup. Dans notre pays, parce qu'aujourd'hui nous sommes ici, on se réclame de ce pays, malgré que nous sommes originaires d'ailleurs.
Bien sûr.
Nous sommes partie prenante de cette communauté et nous vivons ici. Nous vous disons merci pour ce que vous faites.
Merci à vous de me permettre d'informer sur ce qui est possible de faire en France. Vous avez raison d'insister. En France, on a la chance d'avoir une protection sociale, un service de santé qui permet d'aller même vers le dépistage, vers la prévention, puisque les soins sont également pris en charge, assurés, etc. Pratiquement tout le monde a une couverture sociale en France. On n'a pas ce problème de difficulté liée à l'argent. Mais il reste la difficulté de comprendre et de savoir que ces dispositifs existent. Et donc, c'est moi qui vous remercie de me donner la parole pour faire savoir ces informations auprès de communautés qui ne le sont peut-être pas toujours bien informées.
Auditeur de la radio Yila, vous avez vu tout à l'heure, j'ai bégayé. C'est parce que tout simplement, il y a une équipe formidable qui travaille avec moi. Ils sont dans les coulisses, ils font attention à ce que nous faisons. On ne doit pas oublier une personne, on ne doit pas oublier les parties prenantes. Toutes les associations qui sont impliquées dans ce projet Yila Rose, vous avez les remerciements, vous avez notre reconnaissance. Tout le travail que vous faites dans l'ombre, africaine, visage de femme, femme d'ici, femme d'ailleurs, Horizon, Wagon Soak, le service technique qu'on a aujourd'hui, la personne qui nous accompagne dans le technique qui n'est autre que le studio Wawrek de Alioune, on lui dit merci. Et nous disons merci aussi à une autre personne qui a les objectifs, qui est en train de prendre des images, qui n'est autre que Kossi, qui nous vient tout droit du Togo. Alors, il dit bonjour à ses frères qui arrivent du Togo. On a une belle dame aussi qui est venue nous rendre visite, qui est une athlète. Bientôt, on va l'inviter sur cette antenne de la radio pour parler sport, santé, et qu'elle va nous aider pour les prochaines éditions, parce que je vous rappelle que le programme de ce mois-ci, avec tous les partenaires qui sont impliqués, ce que je n'ai pas cité, je m'en excuse. Franchement, je m'excuse parce que je suis envahi par l'émotion, je suis envahi par le fait de l'action. Reconnaissez-vous dans les remerciements que je suis en train de faire là maintenant pour vous parler du programme qu'on a mis en place. Aujourd'hui, on a commencé notre émission avec cette conférence, avec comment prendre, améliorer la prévention et le dépistage contre le cancer du sein. Et on a fait un clin d'œil à toutes les autres formes de cancer. Nous aurons une autre conférence le 8 octobre prochain avec comment prendre en charge cette maladie. Et après, on aura une émission qui verra le témoignage des personnes qui vivent avec ces maladies. Le 22 octobre, on vous donne rendez-vous au Wagon Soak. Et au Wagon Soak, on aura des ateliers. Des ateliers qui vont vous permettre, parce que quand on vit avec cette maladie, le traitement, quand on arrive au stade de traitement, il y a la chimio. La chimio vous donne des effets secondaires. Il y a la perte de cheveux, l'assèchement de la peau, problème de nutrition. Donc, on va faire des ateliers avec des spécialistes là-dessus pour vous parler comment se prendre en charge avec l'alimentation, comment prendre soin de sa peau, comment prendre soin de ses cheveux. Et une fois qu'il y a une l'ablation du sein, parce qu'aujourd'hui, il peut y arriver pour vous permettre de vivre avec la maladie, que vous passiez des chirurgies et qu'il y ait une ablation du sein. Donc, vous permettre de faire une prise en charge de votre corps, que vous vous sentez encore belle, parce que la femme, elle est belle de nature. Quelles que soient les difficultés que vous arrivez à vivre dans ce monde, vous restez des belles créatures que Dieu nous a permis d'avoir sur cette terre. Après le 22 octobre, nous avons le 29 octobre où on a une marche de Cornembourg vers Haute-Pierre. C'est une marche. Cette fois-ci, les spécialistes du sport ne vont pas nous en vouloir. Prochainement, ils vont nous conseiller comment faire de la compétition. Comme l'a si bien dit tout à l'heure docteur Catherine, qui est de la compétition, qui est un peu de l'engouement. La prochaine édition, on fera de compétition. Et le 30 octobre, c'est notre journée basket. Vous allez découvrir pourquoi on a fait cette journée basket. Je vous garde les surprises. Donc, pour avoir plus d'informations, allez sur la page Facebook, Instagram, que ce soit de Radio ILA, Africel, Horizon, tous les partenaires de ce projet extraordinaire qu'on a appelé ILA Rose, pour pouvoir vous permettre de savoir ce qui se passe durant ce mois d'octobre avec tout ce qu'on a prévu pour vous. Docteur, j'aime beaucoup parler. Je pense qu'on va s'arrêter là. Pour pouvoir, comme on dit chez nous, pour mieux se revoir, il faut savoir se dire au revoir.
Avec plaisir. On se reverra donc le 22.
Tout à fait. Auditeur de la radio ILA, encore de plus, merci d'être parmi nous et nous vous disons à très vite pour pouvoir vous dire ce qui vous attend avec ce projet ILA Rose, avec ses partenaires, sur la plateforme de la radio ILA et sur tous les réseaux sociaux. Et nous vous disons à très bientôt.